Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone saison 4, épisode 51, en compagnie des gars de la presse qui sont là, Simon-Olivier Larange qui est avec nous. Salut Simon-Olivier.
Salut.
Nous avons sur la route Guillaume Lefrançois. Ça, c'était quelle chanson quand même. Guillaume Lefrançois qui est avec nous. Salut Guillaume.
Salut JR.
Oui, t'es de retour de Boston.
Pierre Flynn.
Pierre Flynn. T'es de retour de Boston. En fait, t'étais là à Boston et là, tu reviens vers Montréal, là.
C'est en plein ça, faites ça en voiture pour avoir le plaisir de traverser le Vermont puis de surtout de m'arrêter au Vermont.
Non, mais on a-tu du fun dans la vie pour la 98.5 FM, Stéphane White qui est là. Salut Stéphane.
Salut les gars, ça va bien?
Ben oui, ça va super bien. Messieurs, oui. Nous avons eu hier, jeudi le 23 mars, le deuxième duel entre le Canadien et les Bruins et je trouve ça inexplicable qu'on ait juste deux matchs rendus quasiment à la fin de la saison entre le Canadien et les Bruins. Le dernier match de l'année sera contre les Bruins de Boston. Mais mon Dieu, quel drôle de calendrier quand même, Simon-Olivier. Pense à ça, là, t'as vu le match hier. Sincèrement, c'était une bonne game de hockey. Là.
Ben oui, complètement. Puis, ce qui est dommage que ce soit le dernier match de la saison, mais je veux dire, ça peut pas nécessairement être prévisible, c'est pas le problème de la Ligue, mais c'est que je serais pas surpris. En plus que c'est à Montréal, je serais pas surpris que plusieurs vedettes des Bruins soient pas au rendez-vous pour justement garder les joueurs frais et dispo pour le début des séries. Fait que je sais pas à quoi on s'attend pour le dernier match, le dernier duel de la saison. Mais oui, hier, c'était un bon Canadien-Boston.
Ouais, un vrai Canadien-Boston. Stéphane, t'as connu la rivalité Canadien-Bruins. Comment t'expliques que c'est sensiblement des joueurs complètement différents du côté du Canadien, entre autres, que Boston, c'est pas mal les mêmes, là. Mais il y a toujours quelque chose entre le Canadien et les Bruins.
Ben, j'ai comme l'impression que ça se transmet, ça, de génération en génération dans les joueurs. Les anciens en parlent aux jeunes, là, puis après ça, les jeunes, éventuellement, vont parler aux plus jeunes dans quelques années. Mais ça, tu le sens tout le temps. Moi, en faisant partie de 8 saisons avec le Canadien, tu sentais tout le temps quelque chose de spécial quand t'allais à Boston ou Boston vient à Montréal. Tu sens même dans la foule, les spectateurs sont plus agressifs, sont plus... tu sens qu'il y a quelque chose que c'est spécial. Donc, Canadien-Boston, c'est pas prêt de mourir comme rivalité. Et puis, on a eu un bon échantillon hier.
On a eu un échantillon grâce, entre autres, à Rem Pitlick qui est allé frapper Patrice Bergeron.
Tu touches pas, Bergeron.
Ah, ça a l'air que non, parce que notre ami Brad Marchand est sauté à pieds joints sur... Ben là, écoute, évidemment, c'est une image, là, vous avez compris le principe. Mais a frappé une série de coups de poing à Pitlick qui était sur la glace. Après ça, t'as Jake Evans qui est allé freiner dans le visage du gardien de but des Bruins, Jeremy Swayman. Ça l'a amené, encore une fois, Bergeron. Ça l'a amené une multitude de joueurs à frapper notre ami Jake Evans. Guillaume, tu étais sur place. Parle-moi de ce niveau d'intensité dans ce match-là entre le Canadien et les Bruins.
En fait, c'est un niveau qui était surprenant. En fait, pas vrai. Ce qui était surprenant, c'est que ça parle de Rem Pitlick. Parce que si tu m'avais demandé d'identifier des acteurs de cette rivalité-là, je pense que Rem Pitlick, j'aurais repêché assez tard dans les choix possibles. Donc, c'est plus ça qui était surprenant. Mais pour le reste, effectivement, en fait, c'est rassurant de voir que cette rivalité-là se tient toujours. Puis en fait, c'est ce qu'on dit souvent des rivalités. Tu sais, rappelez-vous, dans les années 80, on disait ça quand les Nordiques en arrachaient, puis qu'on les appelait les Nordaines. Ben, on avait beau faire des blagues, tout ça, mais les matchs contre le Canadien étaient toujours compétitifs, même si le Canadien était une des meilleures équipes de la Ligue nationale à ce moment-là. Et on voit un peu la même chose. Si, rappelez-vous, le match également au Centre Bell, ben, c'est la même chose. Ça avait fini 4-2 aussi. Donc, tu sais, ça avait été quand même un match assez chaudement disputé. Et en plus, n'oublions pas qu'il manquait Arber Jackey et Josh Anderson du côté du Canadien. Et ce sont deux joueurs qui auraient certainement pu ajouter à cette intensité-là qu'on a eu dans le match, qui aurait pu être des acteurs, disons. Donc, ce bout-là est rassurant. Ça nous rappelle, par contre, que les Bruins ont beau avoir une identité qui est beaucoup plus basée sur le talent maintenant, il va toujours rester ce fond-là dans l'équipe. Là, c'est sûr que Brad Marchand fait partie aussi des joueurs qui contribuent à donner cette identité-là aux Bruins. Mais tu sais, c'est une équipe aussi qui a des joueurs quand même. Tu sais, un Tyler Bertuzzi qu'on n'a pas vu énormément là, dans le match. Moi, il a marqué, mais bon, ça reste que c'est un joueur qui est capable de d'agiter. Trent Frederick aussi. Et puis... Ouais, ben c'est ça exactement. J'arrivais à lui parce que Garnett Hathaway, en fait, j'en ai parlé dans mon texte sur le match, mais Jim Montgomery, quand tu as parlé de lui, il a dit il est gros, il est méchant, il y a du Starbroom, tu sais. Alors, autrement dit, là, ça demeure au cœur de l'identité de l'équipe. Donc, c'est pour ça que, tu sais, même malgré le virage, malgré le fait que l'équipe tourne beaucoup autour de Pasternak, de McAvoy, de Patrice Bergeron, ça reste que cet aspect-là de robustesse, d'intensité, ça reste dans l'identité des groupes.
Simon-Olivier, écoute, il y a de l'émotion, mais des fois, ça va un peu trop loin. AJ Greer, qui est allé d'un double échec en plein visage de Mike Hoffman. D'ailleurs, il sera convoqué au comité de sécurité de la Ligue nationale.
Exact, il est convoqué. Donc, il y a un grand mystère. On en parlait avant le début de l'enregistrement.
On enregistre et on n'a pas le résultat de ça, évidemment.
Exact, à savoir si c'était en personne ou pas. J'ai l'impression que vu que c'est pas mentionné, que ce sera pas en personne, parce que je sais pas à quel point on va donner 5 matchs pour un geste qui, quoi qu'illégal et peu élégant, tu sais, il est quand même pas, c'était quand même pas un assaut. Mais ouais, c'était surtout pas très impressionnant d'AJ Greer. J'ai l'impression qu'étant donné que c'est pas un coup si puissant que ça, que c'est pas nécessairement ce qu'il voulait faire, mais en même temps, quand le bâton est rendu au niveau du visage, il y a des bonnes chances que ça arrive. Fait que, ouais, on devrait s'en faire. Si ça se trouve, les gens, quand ils vont écouter notre podcast, vont être déjà au courant.
Parce que des points de suture, on l'a vu là, dans le cas d'Hoffman, puis ça me semblait un réflexe. Je pense qu'il s'attendait à avoir un double échec, lui aussi. Ouais. Ça a tout a parti en même temps, puis en plein visage.
Je m'attends à une amende, peut-être un match, mais je pense pas que s'il y a des gens qui espèrent une grande justice réparatrice pour ça, je pense qu'il faut pas retenir notre souffle non plus.
Ouais. Stéphane, écoute, les Bruins, c'est les Bruins. On a vu ça avec AJ Greer. Ouais. Sincèrement, c'est le premier club de la Ligue nationale de hockey. C'est le club le plus fort. Le Canadien a tenu son bout dans ce match-là. Puis je pense que le Canadien, par moment, a été la meilleure équipe sur la glace.
Oui. Ben écoute, mais le Canadien a mieux joué que les Bruins hier, faut être honnête. Même juste au chiffre des lancers, je pense que c'est 31-17 ou 31-18, quelque chose du genre. Donc, la grosse différence hier a été dans le filet. Swayman a été meilleur que Jake Allen. Jake Allen, pour moi, a été très ordinaire encore une fois hier. Sa troisième présence dans le filet, parce que c'est difficile pour Jake Allen.
Ben, il était solide par moment, Stéphane. Il était solide par moment. OK, le premier but de Bertuzzi dans le dos, mais pour le reste, là, écoute, devant Pasternak, à quelques reprises, il était très solide.
Ben, écoute, moi, le deuxième but, c'est un échappé. J'ai trouvé très, très profond. Il a fallu qu'il fasse un gros arrêt là. Il était très profond, donc il s'est fait battre sur le côté du blocker. Le but de Pasternak, c'est un mauvais but, ça, les gars. Écoute, premièrement, ça partait en arrière du filet. Il a joué la rondelle en arrière du filet. Il a fait un très mauvais jeu avec la rondelle. Au lieu de faire une passe directe au défenseur, il a fait un rim par la bande qui est tombé dans les mains du joueur des Bruins au hash mark. Ce gars-là a fait une passe à Pasternak. Donc, à cause de son erreur, il a une chance de scorer. Puis ça, là-dessus, mais c'est un but faible entre les deux jambes. Donc, pour moi, il était très ordinaire. Et puis, Swayman était meilleur. Mais en général, le Canadien était meilleur au complet. Donc, je pense que je sais pas si les Bruins ont pris le Canadien un petit peu à la légère, mais c'était pas le meilleur match des Bruins. Mais Canadien, particulièrement quelques joueurs, donc on va parler plus tard, là, dont Dak, ont été très bons.
Est-ce que tu me permets, Stéphane, puis les gars, permettez-moi encore de faire un petit lien sur le gardien de but chez les Canadiens, parce que j'ai vu quelque chose, puis on n'a pas eu la chance d'en s'en parler avec Stéphane. J'ai vu Samuel Montembeau aller derrière son filet, puis au lieu de remettre la rondelle à son défenseur, remettre ça directement à l'ailier. C'est comme lui qui faisait la sortie de zone. Je me suis dit, mais quelle bonne idée! T'es vite d'avoir de la pression dans le coin. Est-ce que Jake Allen ne devrait pas faire ça aussi? Envoie ça directement à l'ailier au lieu d'envoyer ça au défenseur dans le coin?
Ouais, exact. Mais dans cette situation-là, la option qu'il avait, c'était une passe directe. Et puis, parce que justement, l'ailier était très bien protégé, surveillé. Donc, mais c'était un jeu simple à faire. Mais écoute, c'est des affaires qu'on pratique à tous les jours, ça. Les passes aux ailiers, les passes aux défenseurs, les passes au centre, que le gars qui va curler bas dans la zone, ou des fois que les équipes vont protéger les bandes. Donc, le centre est ouvert. Donc, c'est des choses qu'on pratique à tous les jours avec les gardiens de but. Puis, évidemment, le meilleur que j'ai eu là-dessus, là, c'est Carey.
On est surpris. On est surpris.
C'est ça pour dire que ça fait tellement une différence, un gardien de but qui joue bien la rondelle. Ça change tellement tout pour les défenseurs. Ça change tout pour contrer l'échec avant. Ça change tout pour l'adversaire quand que tu peux pas souvent donner la rondelle au gardien de but en entrée de zone. Et ça change toute la game.
Hier, pendant le reportage du match sur les ondes du 98.5 FM et l'ensemble du réseau Cogeco, Danny Dubé est allé d'une sortie contre l'arbitrage en disant de voir comment comment Marchand s'est attaqué à Pitlick. Après cette mise en échec, il aurait pu être puni pour obstruction sur Patrice Bergeron. Mais comment Marchand a sauté sur Pitlick, le frappant pendant qu'il est par terre, et Marchand s'en sort avec une simple pénalité. Je pense qu'il y a eu rudesse. Une pénalité qui est annulée par la pénalité de Pitlick. Là, je pense qu'on a donné une pénalité à Pitlick là-dessus. Il était outré. Il était là. Il dit, ça n'a aucun bon sens comment les joueurs des Bruins de Boston s'en sortent. Un autre geste, Jake Evans s'en va en territoire offensif, arrive à la ligne bleue. Marchand lui sort un crochet sur le coin du coude, tandis que Charlie McAvoy vient lui mettre les deux gants dans le visage. Et pas de pénalité sur la séquence. Je sais pas, Simon-Olivier, toi, comment tu vois ça, cette attitude-là des Bruins?
Ah ben, je pense pas que c'est juste les Bruins. On en a parlé justement à ce micro-ci dans les dernières semaines. Puis je reviens au match précédent, celui contre le Lightning de Tampa Bay, une situation en deuxième période où Michael Pezzetta plaque Corey Perry, c'est carrément face à face. Il y a pas de punition sur la séquence. Pezzetta se fait sauter dessus, je pense que c'est par Pat Maroon. Peut-être que je me trompe.
Oui.
Et là, les deux, il n'y a pas vraiment un combat complet, mais on se tapoche un peu. Et les deux ont chacun une rudesse. J'étais comme, ben là, si Pezzetta ne peut plus faire cette mise en échec-là, il reste quoi? T'sais? Puis c'est un peu ce que je me demande. Puis Pitlick, effectivement, aurait pu être puni, mais en même temps, puis on a eu exactement cette discussion-là, je pense, la semaine dernière. Pour chaque coup qui n'est pas un coup dangereux, ben c'est rendu qu'il y a une réplique puis que la réplique n'est pas plus punie que ça. Ben je veux dire, les joueurs sont pas fous. Puis surtout, une équipe comme Boston qui aime ça quand ça brasse puis qui prend beaucoup de fierté justement à défendre les coéquipiers, ben ils vont en profiter. Puis je trouve que c'est un jeu dangereux auquel joue la Ligue nationale si on ne resserre pas la vis rapidement. Parce que là, présentement, c'est drôle parce qu'en parallèle, dans la Ligue junior majeure du Québec, beaucoup de gens s'inquiètent de dire « Ah, là, s'il n'y a plus de bataille, va-t-il avoir des coups dangereux? » Ben ça, c'est par exemple... c'est pas des combats en bonne et due forme, mais c'est des jeux qui peuvent avoir des conséquences quand un joueur en attaque un autre comme ça. Je me demande vraiment où est-ce qu'on va si on va tracer une ligne, et si oui, où est-ce qu'on va la tracer?
Je pense qu'il y a une hiérarchie aussi dans la Ligue nationale, puis Guillaume, je veux t'entendre là-dessus. T'as Patrice Bergeron, tu touches pas à Bergeron. Je pense que c'est ça qu'on a compris, mais on n'a pas puni nécessairement la conséquence de Marchand. Puis il y a de l'attitude du côté des Bruins. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Jeremy Swayman, là, écoute, l'attitude, là, quand tu vois Jack Allen qui est alentour, là, il s'en va à la ligne rouge, puis là, il y a l'attitude, là, ils sont confiants, nos Bruins de Boston.
Ben, c'est ça, exact. Ça, c'est sûr, ils sont confiants. T'es la meilleure équipe de la Ligue nationale. Donc, il y a aucun doute que ça vient avec une certaine confiance. Je pense aussi que plusieurs joueurs des Bruins ont un statut que peu de joueurs du Canadien ont, c'est-à-dire une certaine, je veux pas dire une immunité auprès des arbitres, mais tu sais, rappelez-vous le Canadien quand c'était Weber, Sherrod en défense qui pouvait donner des doubles échecs tant qu'il voulait parce que justement il y avait un certain degré de respect. Tu sais, il y a ça qu'il faut pas oublier aussi dans la Ligue nationale. Tu sais, je pense que des vétérans plus établis vont souvent avoir un certain lousse de plus. On le voit même d'ailleurs aussi aux mises au jeu. On en parlait hier avec les joueurs du Canadien, mais c'est à quel point que des fois un Patrice Bergeron justement une mise au jeu va également avoir un petit peu plus de liberté que les joueurs moins établis du Canadien. Et puis ben je pense que ça va aussi pour les pénalités. Cela dit, juste une petite nuance, mais dans le cas d'hier de Marchand et Pitlick, oui, c'est vrai que la réplique de Marchand était très forte, mais je pense aussi que dans ce cas-ci, les arbitres ont quand même fait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire que, bon, on a donné une pénalité à Pitlick pour obstruction. Alors, on devine pour la mise en échec à l'origine, le contre Bergeron. Et Marchand, ben lui, il a eu 4 minutes. Donc, tu sais, au bout du compte, le Canadien a quand même eu un avantage numérique. Et je pense que l'espèce de principe de base pour ces cas-là, ben ça devrait être ça. Ça devrait être que oui, tu donnes une mise en échec qui dans ce cas-ci qui était pas considérée légale, mais qui était pas non plus dangereuse. Donc, OK, tu donnes une pénalité, tu donnes une mise en échec, tu as une pénalité, mais en raison de la réplique, ben tu sais, bon, t'obtiens quand même un avantage numérique. Je pense que cette espèce de principe-là de base a été respecté ici.
OK, je comprends, Guillaume, mais j'ai l'impression qu'on vit sur une autre planète. T'as un gars qui est à terre et t'as un marchand qui est par-dessus, qui frappe à qui mieux ce gars, là. Tu sais, veut pas, si tu me dis que ça, c'est 2 minutes.
Il y a eu un cap. Il y a eu quatre, en fait, pour ça. Simplement qu'on a jugé que Pitlick, sa pénalité était, sa mise en échec n'était pas tout à fait légale. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, on a donné un cap à Marchand.
OK. Mais j'ai
un bon 4.
Écoute, lui, Marchand, il se dit que c'est un 4 qui a valu la peine, j'imagine. Oui. Mais c'est ça, mais ça reste que, bon, on a quand même
un Canadien qui tu lances un message que. C'est ça, tu es un bon 4. Tu lances un message que tu touches pas à nos meilleurs joueurs. Puis c'est ça, les Bruins de Boston. Ils se tiennent. On parle de Swayman qui avait une attitude hier. Écoute, il est allé à la ligne rouge et puis il faisait des signes à Allen en voulant dire avec son bâton, sors de là, sinon on m'en mêler. Une couple de fois qu'il a répliqué après une couple de scarmouches.
Ben oui.
Et puis, c'est ça les Bruins de Boston.
Ah, mais je leur souhaite que ça marche en série. Pour les deux gardiens, tu sais, Telmark qui est là, puis Swayman, je leur souhaite parce qu'ils ont un bon club. Oh, mais si ça arrête devant le filet, ça peut être compliqué un peu pour eux autres, par contre, là.
Si ça arrête demain.
Mais je pense pas.
Toi, tu penses qu'ils vont être performants?
Oui, moi aussi. Moi aussi, parce que premièrement, là, ils sont bien protégés avec 6 défenseurs. Là. Wow, un top 6, impressionnant. Et puis, si ça marche pas avec un, ils ont le loisir de pas patient, d'être pas patient, tout de suite de switcher avec l'autre gardien de but. Ils ont 2 bons gardiens de but. Puis ça, c'est pas beaucoup d'équipes dans la nationale qui ont un duo comme ça.
Vas-y, Guillaume.
J'allais ajouter que les Bruins, depuis 16 matchs, ils ont une véritable rotation, une véritable alternance entre les deux gardiens. Donc, ça fait 16 matchs que c'est un match chacun, un match chacun. Montgomery, hier, a précisé quand même qu'il allait commencer avec un gardien pour les séries. On présume que ce sera Hallmark. Mais ça reste que, tu sais, ils vont arriver avec 2 gardiens qui auront eu du millage, qui ont joué beaucoup, particulièrement en fin de saison. Donc, effectivement, ils ont cette liberté-là là, d'y aller avec un ou l'autre, d'apporter des changements. Puis même, je sais qu'en série, il y a des gens qui disent, puis Stéphane, tu auras peut-être c'est sûrement une expression que tu utilises ou que tu as entendu, qui dit que tu as le droit en série de faire un changement de gardien. Tu peux pas te mettre à alterner constamment.
Non.
Mais je me demande si les Bruins, eux, avec justement de la façon dont ils ont utilisé leur gardien toute l'année, puis avec la qualité des deux gardiens, moi, je demande presque que les Bruins n'ont pas le loisir, la liberté de faire quelques changements au fur et à mesure si jamais ça va moins bien pour un des deux.
Bon, en tout cas, on leur souhaite du succès en série de fin de saison. Bon, vous savez que Simon-Olivier Lorange est toujours avec nous en studio. Il vous écoute, les gars, parler.
Mais je te trouve bien bon en même temps. C'est pas ouais, ça fascinant.
Ben, ça, c'est gentil.
Chanceux d'être là.
Ben bon, je donnerais le titre à Kirby Dack, qui est ben bon. Honnêtement, quel lien incroyable.
Honnêtement, c'est une école de transition.
Oui, ça arrête plus. J'ai quasiment mal à la tête. Je te le dis, là, quasiment. Kirby Dack, honnêtement, qui va encore d'une belle performance. A contrôlé la rondelle. On est obligé de parler d'un coup de génie de Kent Hughes. Écoute, il reste encore 3 ans de contrat, 3,36. Ça marche, son histoire avec le Canadien Kirby Dack, Simon Guy.
Ben là, ça devient de plus en plus dur pour moi de jouer mon rôle de l'éternel pessimiste parce que la saison, j'ai l'impression que Dak, on l'a vu s'améliorer constamment pendant la saison. Les premières semaines, tout le monde était curieux de le voir. Mm-hmm. Et on attendait le fameux joueur de centre qui avait pas l'air d'un joueur de centre. Puis là, il a fini par connaître du succès à l'aile. On l'a ramené au centre. Ça a été un peu long, finalement, connu du succès. Là, dans son l'échantillon est petit depuis son retour, mais déjà, il retourne au centre. Puis force est d'admettre qu'il est impressionnant. Quand il s'avance en zone adverse, c'est pas un gars qui arrive avec une vitesse, ou je sais pas si sa vitesse a l'air moins perceptible
à cause
de son gabarit, mais contrôle la rondelle, mm-hmm. protège la rondelle, la distribue également. À un moment donné, c'était une séquence en troisième période où il a complètement pivoté sur lui-même pour envoyer la rondelle à Drouin, qui a obtenu un tir, mais qui avait l'air surpris de recevoir le 10 de nouveau en avant du filet. C'est très impressionnant ce qui se passe avec lui. La réserve que je me garde, parce que j'en ai toujours une, c'est qu'est-ce que ça va être l'année prochaine, dans 2 ans, quand le club va être de plus en plus compétitif. Encore que on ne sait pas à quel point les Canadiens vont l'être l'an prochain, mais quand ça va compter. Parce que présentement, sans dire que ce qu'on voit, c'est biaisé, ben les joueurs du Canadien disputent des matchs qui comptent pas. Ils le font avec intensité. On l'a vu cette semaine contre le Lightning, contre les Bruins, mais ils disputent quand même des matchs sans importance. On disait un peu la même chose l'année passée quand Cole Caulfield marquait plein de buts en n'ayant aucune obligation d'en compter. Mais cette saison, on a vu que c'était pas de la frime. C'est un vrai marqueur. Maintenant, Kirby Dack, qu'est-ce qu'on va voir l'année prochaine et par la suite que c'est un vrai joueur de centre qui est capable d'avoir ce niveau-là avec, on imagine, des alliés de plus grande qualité que ceux qui lui sont donnés présentement. Ça va être intéressant, mais je dois dire effectivement que c'est assez spectaculaire ce qu'on voit. Puis tu sais, dans les feuilles que tu as distribuées avant le podcast, que c'était le titre, c'était Kirby Dack, le coup de génie de Kent Hughes. Je sais pas si c'est le seul, parce que Kent Hughes, dans son court règne, a quand même un très bon bilan sur le plan des transactions, mais celui d'avoir bien utilisé les ressources qu'il y avait en banque, qui était le grand nombre de jeunes défenseurs, en sacrifiant Romanov pour aller chercher Kirby Dack, qui comblait un besoin et qui le comble bien jusqu'ici. Effectivement, c'est du beau boulot de Kent Hughes.
Stéphane, écoute, Kirby Dack qui contrôle la rondelle là, dans le fond de territoire. Ça fait du bien de voir. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gars être aussi bon que ça pour protéger la rondelle, puis aller la chercher, puis la contrôler. C'est assez incroyable.
Exactement. Spécialement, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le gros centre qu'on recherchait depuis des années. 6 et 4. Écoute, moi, il m'impressionne de plus en plus. Et puis, je me souviens tellement de l'annonce de cette transaction-là. J'étais au Centre Bell pour le repêchage. J'étais justement avec notre collègue Mario Landlois. Et puis, sur le coup, j'ai été très surpris. J'ai tout de suite texté à mon frère pour dire, c'est quoi qui marche pas avec Dak pour que les Blackhawks, mon frère, qui, pour ceux qui ne savent pas, qui est l'entraîneur des gardiens de but à Chicago, c'est quoi qui est le problème avec Kirby Dak pour que vous l'échangez à 21 ans? Et qu'il me dit, bon, écoute, on l'aime bien, il était ralenti par une blessure, une importante blessure au poignet, ce qui expliquait en grande partie sa faiblesse sur les mises au jeu. Et puis, mais il disait, tu sais, des fois, il se présente pas tous les soirs, puis si, puis c'est ça. Mais je trouve que moi, juste Chicago a abandonné vite sur un gars, je répète, de 6 pieds 4, 21 ans, il joue au centre, qui a un bon hockey sense, qui a des bonnes mains, qui peut jouer dans une partie où ça brasse. C'est quoi tu veux de plus? Donc, quel échange, quel joueur de centre. Puis, allez, ça fait longtemps, les gars, qu'on cherche deux centres à Montréal.
Ouais.
On a eu de la misère à en avoir un numéro un pendant longtemps. Là, on a deux qui peuvent devenir peut-être des centres numéro un dans la Ligue nationale.
Mm.
Donc, impressionnant. Honnêtement, là, j'adore le genre de joueur qui est Kirby Dak. Et il y a un petit peu de graine de leader là-dedans. Là. Il était un leader pour l'équipe Canada Junior là, il y a quelques années. Puis encore une fois, je reviens sur un point. 21 ans, les gars.
Ça fait toute la différence. Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus?
Ben, Smolvie l'a évoqué rapidement, mais Smolvie a parlé de la qualité des alliés. Ça, c'est l'autre chose, là. Kirby Dak, depuis qu'il a été, tu sais, on sait, il y a eu du succès à l'aile avec Nick Suzuki en début d'année, avec Suzuki puis Caulfield, tout allait bien, c'est correct. C'était les trois meilleurs attaquants du Canadien réunis dans un même trio. Depuis qu'on l'a mis au centre, par contre, les alliés qu'il y a eu le plus souvent, ben, c'est Mike Hoffman, Evgeny Dadonov, Jonathan Drouin. Il a à peine joué avec Josh Anderson, qui, on sait, Anderson a vraiment été le meilleur allié du Canadien en deuxième moitié de saison. Donc, tu sais, c'est un gars qui a pris un trio et qui l'a, tu sais, qui a conduit l'autobus, comme nos collègues anglophones vont dire. Mais ça, je trouve que c'est quand même une formidable qualité, parce que quand tu fais après ça ta formation en début de saison ou quand d'entraînement, tu veux placer tes pions, ben, tu dis, OK, ben, lui, regarde, on n'a pas besoin de donner nécessairement le meilleur allié d'équipe, le meilleur allié de l'équipe, le meilleur marqueur. Il va quand même réussir à transporter son trio. Ça, c'est fabuleux comme qualité, surtout pour une équipe, tu sais, qui va rentrer quand même beaucoup de jeunes dans les prochains mois, prochaines années.
Simon-Olivier?
Je reviens sur un point que Stéphane soulevait, celui du gabarit de Kirby Dak. Je trouve que Kirby Dak, c'est une approche très moderne du hockey, d'être allé chercher ce gars-là, puis sa manière de jouer. C'est-à-dire que les gros attaquants, on a une espèce de vieille vision que les gros attaquants qui ont un gros gabarit, donc, doivent appliquer des mises en échec, jouer très physiquement. Tu sais, je pense à Guillaume Latendresse quand il a commencé avec le Canadien, il y a presque 20 ans, ça nous rajeunit pas. Les gens comprenaient pas qu'un gros bonhomme comme ça soit pas en train d'arracher les bandes puis de frapper partout. C'est pas, tu sais, un gros attaquant, il peut jouer gros, entre guillemets, sans être en train d'arracher des têtes. Et Kirby Dak en fait la preuve que par sa taille, par son poids, par sa solidité sur patin, ben, il s'en sert de son gabarit, justement, pour protéger cette rondelle-là et la distribuer à ses ailiers ou faire son chemin jusqu'au filet. Puis, je trouve ça vraiment intéressant comme manière de miser sur un joueur comme ça, qui, je pense, qu'à long terme peut être plus payant, justement, que le gros ailier. Tu sais, je regarde Josh Anderson, qui, je pense, est un moins bon joueur de hockey que Kirby Dak, là. Je pense que c'est un peu clair pour tout le monde sur le plan des habiletés, qui est vraiment le gros ailier qui frappe, qui est plus spectaculaire, peut-être, à tous les soirs, parce qu'on le voit patiner comme ça. Mais Kirby Dak est tellement un joueur intelligent, que son intelligence va jusque-là de bien servir de son corps pour justement arriver à ses fins comme ça.
Ben moi, les gars, je veux juste vous dire, je veux pas cracher dans la soupe, là, mais Kirby Dak, pour moi, là, si le Canadien veut aller dans la lignée que l'organisation a définie, c'est-à-dire d'être un club qui sera de façon permanente parmi les clubs qui font les séries de fin de saison, je pense que Kirby Dak doit être un ailier sur le premier trio et Pierre-Luc Dubois doit être ton deuxième centre. Honnêtement, c'est ça. Là, t'as un vrai club de hockey. Là, tu commences, imagines-tu, tu mets Dubois, Anderson sur le deuxième trio, puis rajoute-moi un allié là-dedans, là, quelqu'un qui est capable de bien bouger la rondelle. Sincèrement, on commence à avoir un club de hockey balancé. Mais ça, c'est mon opinion qui est bien personnelle, puis c'est facile. En arrière d'un micro, là, tout est possible. Dites-vous, tout est possible derrière le micro, chers amis. OK, on fait un tour à qui mieux. Stéphane, je veux savoir, Brendan Gallagher, depuis son retour, trouve ça comment?
Ben écoute, hier il a joué quoi, 14 minutes 46, il peut pas, il en fait plus que ça, là. Que ça c'est vraiment son plafond, et puis il va falloir...
Il a touché la tige d'ailleurs, ça fait ping!
Oui, exactement. Ben non, écoute, il est honnête. C'est le Brendan Gallagher qu'on connaît, qui a ralenti au niveau de la vitesse, mais qui est honnête, qui va travailler, puis qui va travailler, puis qui va aller se mettre le nez dans le trafic. J'ai pas de trouble avec son retour. Lui, ça peut être plus long à reprendre son rythme qu'un gars comme Kirby Dack à cause de son style de jeu, à cause de son âge, à cause de tout ça. Mais j'ai pas de trouble avec. C'est sûr que Gally, le plus gros problème avec Gally, puis ça, on va en entendre parler encore pendant 4 autres saisons. C'est son contrat,
ben oui.
C'est son salaire. Mais on a parlé de ça, là. Gare, je sais qu'on va en parler pendant... L'année prochaine, ça va être le gros sujet. Dans 2 ans, ça va être le gros sujet. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que ce soit fini. Mais on a tous des mauvais contrats. Tout le monde a des mauvais contrats. Mais tant qu'avoir un mauvais contrat, j'aime mieux avoir un Gallagher qu'un Hoffman ou qu'un Dadonov. Comme dans mon équipe, comme mauvais contrat, parce que lui, il amène la culture. La culture, c'est quoi? C'est un guerrier. Il va se présenter à tous les matchs. Il va donner tout ce qu'il a. Et puis, il a la défaite. Donc, j'ai pas de trouble, moi, à avoir un mauvais contrat comme Brendan Gallagher.
C'est drôle parce que j'ai entendu parler de rachat de contrat dans le cas de Gallagher. Puis moi, je suis assez d'accord avec toi, Stéphane, quand tu dis mieux vaut avoir un mauvais contrat comme Gallagher que, bon, mais t'as choisi Hoffman. Je suis un peu surpris que tu parles d'Hoffman, ben là, oui. Mais mais ce que je veux dire, c'est que dans le cas de Gallagher, je suis allé voir sur Cap Friendly, là, le Canadien paye encore Carl Osner, by the way, en passant, c'est 800 quelques mille encore cette année et encore l'année prochaine. Fait que si tu rachètes, tu vas en avoir encore longtemps okay. Et beaucoup pendant longtemps. Fait que donc, t'es mieux d'avoir le joueur qui est avec toi, selon moi, et qui aide ta troupe, ton équipe, à aller dans la bonne direction. Mais clairement, écoute, c'est plus Gallagher des beaux jours. Guillaume, toi, comment t'as trouvé sa performance à Gallagher?
Ben, je pense que le mot honnête que Stéphane a utilisé, c'est le meilleur mot parce que c'est ça. Bon, premièrement, ça lui fait seulement 2 matchs depuis son retour. Avant ça, il avait raté 45 des 48 matchs précédents. Donc, c'est quand même difficile aussi, là, d'évaluer un joueur pleinement dans les circonstances. Mais je disais, bon, de ce que je vois, ça ressemble au gars qu'on voyait avant les blessures de toute façon. Un effort qui est jamais remis en doute, mais le reste des qualités, que ce soit le coup de patin, même la qualité du tir, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement là qui est supérieur à la moyenne là, pour rester poli. Donc tu sais, effectivement, c'est plus un joueur que tu dis, bon, ben dans le vestiaire, là, regarde, dans le vestiaire, de toute façon, tu fais abstraction du contrat. C'est pas le problème de Martin Saint-Louis de toute façon. Alors, tu oublies le contrat, tu le prends pour ce qu'il te donne. C'est un bon gars pour ta culture d'équipe. Je pense que c'est un gars qui est rassembleur aussi. Oui. Alors, tu le prends pour ça, tu vis avec les défauts, puis après ça, pour ce qui est du rachat, ça va probablement se poser tôt ou tard, à moins, bien sûr, là, que les blessures, tu sais, c'est sûr que si les blessures continuent à le rattraper, peut-être aussi que ça serait un scénario à la Carey Price ou à la Shea Weber, mais sinon, il n'y a pas de presse à racheter son contrat de toute façon. Le Canadien, je pense, prévoit pas être un aspirant à la Coupe Stanley la saison prochaine, donc, tu sais, tant qu'à le racheter, parce que, tu sais, oubliez pas une chose, si le Canadien devait racheter son contrat cet été, Brendan Gallagher serait sur la masse salariale jusqu'en 2031.
Ouch.
Alors, tu sais, tant qu'à t'imposer ce fardeau-là aussi longtemps, ben, attends une année de plus. À chaque année que t'attends, ben, t'épargnes un 2 ans au bout du compte parce qu'on le sait, là, un rachat, tu l'étales sur le double des années restantes. Donc, si tu l'endures une autre année, ben, après ça, ton rachat va t'amener moins loin. Donc, tu sais, je pense qu'au gros minimum, t'attends une autre année, tu regardes où ça va. Puis, en attendant, mis à part sur le plafond salarial, il fait pas mal parce qu'il y a plein d'éléments intangibles qui sont positifs.
Si tu l'endures une autre année, j'aimerais ça que Brendan Gallagher t'entende.
Ben, l'endure. Je veux pas dire le joueur, je veux dire le contre. C'est-à-dire le contre.
saison terminée pour Josh Anderson. On a appris ça, foulure à la cheville. Entorse à la cheville droite, je crois. 17e joueur du Canadien qui rate au moins 10 matchs cette saison. Ça va bien quand même dans l'infirmerie chez les Canadiens de Montréal, Simon-Olivier?
Ben, c'est sûr que pour l'infirmerie, ça va très bien.
Oui,
honnêtement,
oui.
Les employés sont sollicités. Je trouve ça très malheureux pour Anderson qui, on a été assez critique à son sujet de manière générale, je pense, au Québec et ici en particulier. Antoine, notamment, Antoine Roussel, qui avait ciblé de manière assez précise son jeu, puis j'étais assez d'accord. Cependant, Guillaume y a touché il y a quelques instants. Ça a été un des joueurs les plus constants puis qui a apporté le plus aux Canadiens en deuxième moitié de saison. Et même si, tu sais, il avait quand même atteint les 20 buts, je crois, ce qu'il n'avait pas fait encore. Il y avait une production équivalente à 20 buts parce qu'il manquait toujours beaucoup de matchs. Mais donc, fait, c'est pas une saison à l'eau pour Josh Anderson, mais je trouve ça de valeur pour lui que ça se finisse comme ça. C'est un joueur apprécié de ses coéquipiers. C'est un joueur qui veut, s'il y en a un qui veut gagner tous les soirs, c'est bien lui. Donc, oui, finale un peu poète-poète. Et pour lui et pour le Canadien, effectivement, on dirait que ça s'invente pas. Ça devient un peu quasiment risible, malgré que c'est pas drôle pour ceux avec qui ça arrive. Mais tu sais, Kirby Dach revient et Josh Anderson se blesse le même soir. Jake Evans est revenu contre les Bruins. Je me demande qui va se blesser contre les Blue Jackets samedi, parce que c'est pratiquement un pour un présentement. C'est assez terrifiant.
Ouais, Hoffman qui a reçu un double échec en plein visage. Bon, mais écoute, il est revenu dans le match et bien content pour lui, là, mais évidemment.
Ah, Hoffman le guerrier, qui n'est pas un nom qu'on a entendu souvent cette saison.
Effectivement, Stéphane, c'est surprenant de le voir demi-visière, toi, il revient.
Ouais, il y a toutes sortes de guerriers, ça a l'air.
Il lâche pas, hein? Il est incroyable. Peut-être juste un petit mot, Guillaume, et je vais terminer avant qu'on fasse une courte pause. Je veux que tu me parles de Lane Hodgson, qui a marqué encore une fois, qui a battu un record de Brian Leetch. Ça, c'est un jeune espoir défenseur du Canadien. Et là, je lis plein d'affaires, puis même moi, à niveau, s'il vous plaît, là, il aurait pris quasiment 6 pouces depuis son repêchage, 125 livres. Remets-moi à ma place un petit peu, s'il vous plaît, là.
Ouais, mais ça, c'est parce que cette question-là de la grandeur, on en parle beaucoup avec Hodgson, parce que à son repêchage, il avait donné des rapports médicaux aux recruteurs en disant, regardez, ma croissance n'est pas terminée. Là, il y avait des, je sais pas exactement là, de qui le provenait, mais en gros, il mesurait 5 pieds 8 lors du camp d'évaluation de la Ligue nationale. Ça, c'est au mois de juin, quand toutes les équipes viennent rencontrer les espoirs à Buffalo. Il était alors à 5 pieds 8. Il est maintenant à 5 pieds 10. Et là, dans une entrevue au collègue Jean-François Chaumont, du Journal de Montréal, il a dit qu'il était rendu à 164 livres. Donc ça aussi, ben c'est mieux que les sur Hockey DB, on dit 148 livres. Avant ça, je pense que les mesures du camp d'entraînement, c'était 155. Donc oui, il y a une progression là aussi. Ça reste que à 164 livres en ce moment, ça demeure encore évidemment très, très, très petit pour un défenseur. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas trop d'aller de retourner une autre année à l'université. Manger des épinards, lever des poids au gymnase, pas trop non plus, parce qu'il faut pas qu'il perde son identité, là, on s'entend. Mais quand même, il se prépare quand même à jouer dans une ligue où tu vas affronter des attaquants de 220 livres que tu vas devoir essayer de tasser devant le filet. Donc c'est pas à 164 livres que tu vas y arriver.
164 livres, je pense, j'avais 14 ans. Je faisais 164 livres.
Oh my God.
Hey, ça fait longtemps quand même. Bon, messieurs, vous êtes interpellés ici sur le balado Sortie de zone en tant qu'expert. Fait que donc, vous devez être un expert. Et au retour de la pause, je parle de deux clubs. Un, les Bruins de Boston. Deux, les Hurricanes de la Caroline. Les deux clubs sont assurés d'une place en série de fin de saison. Les deux clubs ont connu des saisons incroyables. D'entre autres, les Hurricanes qui, deuxième saison de suite, avec au moins 100 points au classement. Je veux savoir la clé de leur succès. Parce qu'en quelque part, j'ai l'impression que le Canadien de Montréal veut aller de ce côté-là. Ou à moins que je ne sais pas, c'est peut-être pas la bonne chose. Mais clairement, eux ont un certain succès. Puis on va essayer de démystifier qu'est-ce qui fait en sorte que les Bruins et les Hurricanes connaissent du succès. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, saison 4, épisode 51 avec Simon-Olivier Lorange. Nous avons Guillaume Lefrançois, Stéphane White. Je vais commencer avec Simon-Olivier, expert en chef. Wow. Bruins de Boston, ça n'arrête pas, année après année. Là, on a des vétérans. Je regardais les âges, là. T'as Bergeron qui a quoi, 37, Krejci, 36, Marchand, 34, à moins que je me trompe, là, début trentaine. Mais continue année après année après année à être les Bruins de Boston. C'est quoi le secret de leur succès selon toi, Simon-Olivier?
Ben, le secret, je ne sais pas si je peux en identifier un qui est intéressant, puis c'est quasiment de valeur parce que ça devient galvaudé, parce qu'on en a beaucoup parlé cette saison. Puis on en a parlé aussi au début de l'émission, la fameuse culture. Je suis quasiment allé dire ce mot-là parce qu'on en parle tellement. La culture, j'ai l'impression, quand ça va bien, ça te sauve, mais quand ça va mal, ça peut devenir un moteur. Les Bruins de Boston, c'est pas des farces. Il y a peu de gens qui les voyaient en série éliminatoires avant que la saison commence, parce que évidemment, il y avait le retour de Krejci, on savait pas qu'est-ce que ça donnerait, même s'il y avait eu du succès en République tchèque. Marchand, qui avait été souvent blessé. Marchand était blessé à long terme. Il y avait également McAvoy qui était blessé à long terme et Gretschik, je pense, qui devait manquer du temps. Ullmark n'avait pas eu une saison comme ça du tout la saison passée. Swayman n'a pas beaucoup d'expérience. Fait qu'il y avait des points d'interrogation à pas mal toutes les positions. On était néanmoins très serré sur le plan salarial. Fait qu'on ne savait pas où trop où il s'en allait avec ça. Et je pense que le trois quarts de l'équipe devenait joueur autonome sans compensation cet été. Ce qui demeure un problème avec les Bruins, mais qui présentement, on en parle moins parce que ça va bien. Donc, les Bruins n'étaient pas donnés favoris du tout, mais Colin, c'est cette espèce de flamme-là qu'il y a à Boston, mais ils ont réussi à creuser, à aller se chercher ce qu'il fallait en début de saison pour justement connaître le succès qu'il faut en attendant que que l'aide arrive. L'aide est arrivée plus tôt que prévu aussi, et est arrivée, bon, justement, cette saison-là complètement hors du commun. T'sais, ils n'ont pas juste eu une bonne saison, il y a eu dans les très bonnes saisons des dernières décennies en Ligue nationale. Après ça, ils ont eu effectivement de l'aide concrète, c'est-à-dire à la date limite de transaction, ils ont été très agressifs, même un peu avant pour aller chercher Orlov. Il y avait eu, on n'en parle pas beaucoup ici, mais l'échange de Lindholm la saison passée, qui finalement, vu que les Bruins n'avaient pas fait beaucoup de chemin en série, on a comme fait bon, OK, mais c'est moi, je pense qu'il pourrait être un candidat au trophée Norris cette saison, Lindholm, avec le genre de stabilité qu'il a apporté à cette défense-là. Puis je pense que c'est aussi un joueur qu'on avait sous-estimé dans l'évaluation des Bruins. Fait que c'est un peu tout ça, mais tu sais, le modèle d'excellence aussi, quand tu poses cette question-là, c'est ben, un modèle qui est éprouvé à travers le temps. Puis ça fait déjà quelques années qu'on dit, ah, les Bruins ont vieilli, Bergeron, Marchand, ça achève. Ben, puis ça continue de marcher, ben, c'est justement la recette. Faudrait, tu sais, on pointe beaucoup d'éléments, mais si quelqu'un réussit à trouver cette recette-là, ben, ça va être, faut trouver une recette qui fonctionne dans le temps. Mm. Et les Bruins, ça marche. Je pense que tôt ou tard, ils vont arriver peut-être au bout du chemin parce que, ne serait-ce que pour des problèmes, pour des raisons salariales, la structure du contrat de Bergeron puis Krejci, ça peut les rattraper l'année prochaine. Je pense que c'est 5 millions en bonus de cette saison qu'ils vont devoir payer l'an prochain. Fait que c'est une sérieuse épine dans le pied. Mais le Pasternak a signé un nouveau contrat. Selon moi, Bergeron, Marchand sont là encore pour quelques temps. Fait que quand t'as ces gars-là dans ton équipe, ben, je pense que t'es pas trop mal pris pour un moment.
Stéphane, est-ce que tout ça, là, parce que là, on parle de la mentalité des Big Bad Bruins, puis on parle de jouer caractère, on parle de Cam Neal et l'image qu'il donne. Est-ce que tout ça n'est pas un peu soufflé par un gars qui s'appelle David Pasternak, qui est rendu maintenant 49 filets, puis qui est épaulé avec d'autres gars qui sont capables de la mettre dedans aussi?
Bon, écoute, ça reste identité-là contre les Browns. Ça a tout le temps été, tout le temps, puis ça c'est depuis quand on parlait des années 70, 80, 90, ça a tout le temps été difficile de jouer contre les Browns. Puis tu sais, quand tu joues contre les Browns, ça sera pas un walk in the park, puis il n'y a pas d'œufs dans tes épaulettes. Pis ça part, tu sais, ça part. Simon-Olivier a parlé de la culture de cette organisation-là. T'sais, on parle des Terry O'Reilly dans le temps, puis après ça, qui a transmis ça à des Raymond Bourque, qui a transmis ça à des Chara, à des Luchik, puis après ça, des Krejci, puis Bergeron, Marchand. Et puis ça, là, eux autres qui vont transmettre ça à d'autres jeunes, ça, là, ça fait partie. Puis leur culture, oui, je tenais à entendre parler de la culture, mais c'est quand même ça, les Bruins de Boston, une culture incroyable. C'est impressionné aussi de le gérant général, qu'est-ce qu'il fait là encore cette année? Tu vas chercher des gars de profondeur, mais pas seulement des gars de profondeur, des gars de caractère. Moi, là, Attaway, là, pour moi, là, c'est une grosse addition sur le quatrième trio. Lui, il est dur à jouer contre, il a gagné. Tu vas chercher Bertuzzi, que j'ai tout aimé. Il va jouer sur il joue sur un troisième trio à Boston. Wow! Sont allés chercher dans les années passées. Tout le temps des éléments. Un Taylor Hall, qui était capitaine. Un Foligno, qui était capitaine. Un Charlie Coyle, qui est tout un joueur de soutien dans cette équipe-là. C'est incroyable. Quand on bouche des trous de même, tu parles de Simon-Olivier, l'échange de Lindholm. Wow! Quel échange! Ils l'ont signé en plus à long terme. Puis je suis d'accord, c'est un candidat pour le trophée Norris cette saison. Donc, tu vas chercher Orlov, un gagnant de la Coupe Stanley, un des défenseurs les plus sous-estimés de l'équipe. Moi, disant l'affaire, c'est parce que tu vas chercher des joueurs, mais pas n'importe quoi. Des gagnants et des gars qui ont du caractère, puis des leaders. C'est tout le temps ça qu'ils vont chercher à chaque année. Et puis, encore cette année. Je suis impressionné moi, par l'organisation, par la culture, le caractère, puis le leadership qu'il y a dans cette équipe-là.
OK, moi, Orlov, sincèrement, là, c'est mon coup de cœur. Quand tu amènes Orlov dans ta brigade défensive, ouais, t'es en business. Là. Il est gros, il frappe, il est bon offensivement, il est bon défensivement, il a l'air d'avoir quatre poumons. Sincèrement, c'est un excellent choix pour les Bruins de Boston. Maintenant, Guillaume, juste tu me parles des Hurricanes à Caroline. Les Hurricanes, je trouve qu'il y a des similitudes entre les deux clubs. Similitudes peut-être en raison de Rod Brind'Amour qui est derrière le banc, qui, selon moi, a ça, cet ADN-là de, je vais utiliser le terme en anglais, de grinder de luxe, c'est-à-dire d'être acharné au travail. C'est les Hurricanes de Caroline. Trouves-tu qu'il y a une similitude entre les deux clubs, entre les Hurricanes et les Bruins?
Ben, en fait, moi, la grosse similitude que je vois, c'est des équipes qui ont bâti leur noyau à partir du repêchage. Puis ça, tu sais, moi, c'était mon point aussi pour les Bruins, puis il s'appliquait également pour les Hurricanes. C'est que les noyaux de ces équipes-là proviennent, c'est des produits maison. Chez les Hurricanes, là, Martin Nekas, Sébastien Aho, Svechnikov, Seth Jarvis, après ça, tu vas en défense, Brett Pesky, Slavin, tu sais, c'est vraiment tous les éléments principaux de l'équipe qui sont là, proviennent du repêchage, ont été formés à l'interne. Et moi, ça, je trouve ça, tu sais, je trouve que c'est absolument énorme pour une équipe. Ça veut dire que c'est des joueurs que tu as acquis, dans le fond, que pour lesquels tu n'as rien donné, que tu as formé à ton image, qui ont connu les valeurs, l'identité de ton organisation. Puis, ben, c'est ça, on peut dire la même chose des Bruins avec tous les noms qu'on nomme depuis tantôt. Marchand, Pasternak, Krejci, Bergeron, Swayman, Gretzlick, Charlie McAvoy. Donc, tu sais, c'est pour ça, c'est des équipes qui sont constituées vraiment de formidables noyaux à partir du repêchage. C'est sûr que tu vas pas juste ajouter des joueurs au repêchage et comme juste parce que tes recruteurs frappent un coup de circuit à chaque fois, ça va fonctionner. Ça prend une base à cette organisation-là. Je pense qu'à Boston, la base, ça tourne beaucoup, on le sait, autour de Patrice Bergeron, de Zdeno Chara avant. Puis avec les Hurricanes, comme c'est un groupe qui est encore relativement jeune, je pense que je te rejoins là-dessus. Ça part peut-être plus de Rob Brind'Amour. C'est peut-être autour de là que vient cette identité-là. Brind'Amour, en plus, non seulement il est coach, mais avant ça, il a travaillé dans l'organisation et avant ça, il a joué dans l'organisation. Donc, tu sais, je pense que dans leur cas, c'est peut-être ça la différence, c'est que ça passe plus par le coach, mais c'est la même idée de produire ça maison.
Écoute, d'accord, je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, là, Rod Brind'Amour, c'est le meilleur coach dans la Ligue nationale. J'adore ce coach-là. J'adore voir son équipe jouer. C'est une équipe qui n'est pas remplie de superstars, mais c'est une équipe qui joue de la bonne façon, du premier au quatrième trio. J'aime l'intensité qu'il amène à ses joueurs. J'aime comment ils sont organisés, ça glace. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur de la Ligue nationale en ce moment.
OK. Paul Montgomery? Des Bruins? Parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais de Montgomery.
Non, il fait tout un job, mais j'ai comme l'impression qu'il est plus loadé en fait de joueurs, okay, puis de talent, puis de leader dans cette équipe-là.
OK, je comprends ton point. Puis j'ai sous les yeux le repêchage des Bruins de Boston, puis on dit, Guillaume, tu disais que ça passe par le repêchage. Tu sais, on a eu des doutes en 2015 quand les Bruins ont eu 3 choix de premier tour. On était chercher Zboril, DeBrusk et Zenichin. Et il y a Zboril qui était de l'alignement hier pour les Bruins de Boston. DeBrusk également qui a mal fait paraître Edmundson et notre ami Monsieur Savard. Et une autre année en 2016, t'as premier tour McAvoy et Trent Frederick, tu sais, les deux têtes de la formation. Fait que donc, quand tu vas chercher des joueurs, même si tu n'es pas dans le top 5, c'est des joueurs qui ont un impact sur ton alignement puis qui font en sorte que tu es capable de performer. Bon, mais écoute, ça nous dit une chose, c'est que Stéphane White aime beaucoup Rod Brind'Amour. Donc ça, c'est officiel, c'est le meilleur coach de la Ligue nationale, officiellement, selon Stéphane White. Tu votes pas pour les coachs, hein? Non, c'est ceux qui font la diffusion.
Non, il est très bon. Puis là, l'autre raison aussi pourquoi pour moi il est bon, c'est qu'il fait une couple d'années que son équipe est tout le temps là.
Ça fait quoi, 5 ans qu'il est là, lui, Rod Brind'Amour? À peu près 5 ans,
je pense. À peu près, il a remplacé Kirk Muller, lui. Hein?
C'est sa cinquième saison.
Cinquième saison, 5 fois, ils ont été en série, les Hurricanes à Caroline. Bunch of Jerk. Ça, c'était Bunch of Jerk.
Oui, monsieur.
C'est assez incroyable quand même. On s'arrête quelques instants et au retour, on va se parler de la Ligue nationale qui l'échappe encore une fois. Bravo à Eric Stahl. On n'a pas voulu mettre le chandail pour soutenir la communauté LGBTQ+. Eric Stahl qui dit « J'ai jamais mis ce chandail-là ». J'ai vu une photo de la presse qui disait un peu le contraire. On en parle au retour. On est de retour au balado sortie de zone, saison 4, épisode 51. Nous avons Simon-Olivier Lorange, Guillaume Lefrançois, Stéphane White, les gars. Écoute, Eric Stahl, il s'est mis un pied, les deux pieds, je dirais, même jusqu'au genou dans la bouche, en ne voulant pas mettre le chandail en soutien à la communauté LGBTQ+, disant c'est contre ma religion, puis Et vous avez sorti à la presse une photo, en tout cas ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, on voit vraiment quand Eric Staal est avec le Canadien, il sort avec le logo arc-en-ciel, puis tu sais il l'a mis, puis il a dit j'ai jamais mis ça de ma vie. Écoute, mais je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu veux dire de plus
ben
que là, ça?
Je dois dire que le détail m'avait échappé, qu'il a dit qu'il avait jamais mis ça, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a effectivement déjà mis. Après ça, ce qu'il en dit, c'est quasiment secondaire. Mais ce que ça prouve, ça, en fait, c'est qu'il y a vraiment une espèce de désinhibition complète des joueurs. La manière que la Ligue et les Flyers ont géré le cas d'Ivan Provorov, ça a vraiment été un message envoyé au reste de la Ligue nationale de dire, ben si vous aimez pas ça, maintenant vous pouvez le dire. Puis ça a comme libéré une parole. T'sais, pendant un certain temps, on était sous l'impression que c'était vraiment les Russes qui avaient peur de se faire... malmenés par le régime dans leur pays à cause de leur position, s'ils prenaient position en faveur justement de la communauté LGBTQ qui faisait de la propagande, qu'est-ce qui allait leur arriver. Puis je pense qu'on était tous un peu dubitatifs parce que c'est pas des dossiers qu'on connaît en profondeur. Mais là, tout à coup, que James Reimer ainsi que Mark et Eric Staal fassent cette sortie-là, ben ça prouve que ce sentiment-là qui est complètement qui est homophobe, là, on va arrêter de dire « Ah, mais tu sais, moi j'aime tout le monde, mais je peux pas supporter ce chandail-là. » Je veux dire, on jouera pas sur les mots, c'est de l'homophobie, c'est de l'anti-solidarité, je sais pas comment le
dire. C'est un principe de respect. C'est ça, c'est un principe de respect, là.
Exact, tu sais, ça me dérange tellement pas que, ben, je peux pas mettre un chandail, tu sais, je peux même pas mettre un chandail avec ça, c'est ça qui est particulier, c'est que c'est plus, normalement, on devrait parler de droits fondamentaux, et là, c'est une question d'avoir une opinion. Puis le fait qu'avoir une opinion, c'est rendu normal. Puis je trouve ça assez saisissant puis assez inquiétant aussi, au point, puis là c'est quand même, il y a trois équipes qui ont carrément décidé d'annuler le port du chandail, qui sont les Rangers, le Wild et les Blackhawks. Trois équipes qui ont décidé de persévérer puis de laisser des joueurs prendre position, qui sont les Panthers, les Sharks et les Flyers. Jusqu'à un certain point, je me dis, bien, au moins ces équipes-là gardent le cap et disent, arrangez-vous sur une base individuelle. Mais le fait que la Ligue, ça semble pas les chatouiller plus que ça, je me demande un peu à quoi ça va ressembler l'année prochaine, parce que forcément les équipes vont devenir craintives de dire, est-ce qu'on va se retrouver avec une gestion de relations publiques chaque fois qu'on fait un événement, et j'espère qu'on va persévérer, parce que s'il faut que ça coûte aux équipes ces événements-là, ben c'est pas, ultimement, c'est pas les équipes qui perdent quelque chose, c'est les gens de la communauté LGBTQ qui bénéficient de ces événements de visibilité-là, les jeunes qui sont envoyés un signal de dire, hey Colin, le hockey c'est pour moi aussi. J'entendais Matthew Tkachuk dire des Panthers de la Floride après le match hier, de dire tout le monde est bienvenu dans mon vestiaire. Le hockey a besoin des messages comme ça. Les jeunes homosexuels ou les jeunes trans, ceux qui sont chez eux, qui regardent le hockey, ils disent, bon, mon Dieu, je peux y aller, je peux aller jouer avec Matthew Tkachuk. On a besoin de beaucoup de ça et pas beaucoup d'Eric Staal qui dit, ah, ma religion me l'interdit. Fait que c'est où commence ou se termine la zone de la liberté d'expression. C'est difficile à établir dans des situations comme ça, mais j'ai bien l'impression, en tout cas pour les droits humains et pour la solidarité, c'est pas des beaux moments.
Guillaume, de ton côté?
C'est intéressant. Ça va être intéressant de suivre où ça s'en va. Simon Olivier parlait de la question russe qui était au début du phénomène. On dirait que ça, toute l'attention était portée vers ça. Et cet après-midi, ça vient de sortir, là, il y a quelques minutes sur The Athletic, mais Bill Daly a déclaré à The Athletic que la Ligue nationale n'avait aucune information qui suggère que les joueurs russes se placent à risque, que ce soit en Russie ou ici, en participant aux activités là, de soirées LGBTQ. Donc, bref, Bill Daly, finalement, vient dire, là, regardez tous les gens qui disent là, qui voulaient excuser un tel, puis un tel, puis un tel, parce qu'il pourrait avoir des problèmes à la maison. Ben, ce que la Ligue a dit, c'est non, c'est pas ça. Donc, tu sais, autrement dit, là, si vous décidez que vous portez pas le chandail, que vous participez pas à l'échauffement, ben, c'est votre problème, c'est votre choix personnel et puis lâcher les questions de sécurité. Donc, ça, déjà, c'est un premier élément quand même qui laisse croire que bon, la Ligue a peut-être pas non plus nécessairement, l'intention de donner des passe-droits à tout le monde, mais ça reste que oui, c'est tout un panier de crabes que la Ligue va devoir gérer. C'est sûr qu'au bout du compte, tu te dis, est-ce que c'est à la Ligue de le gérer ou c'est simplement aux 32 organisations de s'assurer, c'est chacun de son côté, que ces soirées-là se déroulent bien et que ça devienne pas un enjeu de division là, dans l'équipe. Ça, c'est une façon de le voir, mais ça reste que, tu sais, en ce moment, ce qui est vraiment désolant, puis Simon Olivier l'a évoqué, c'est que c'est la cause, dans le fond, qui devient secondaire derrière l'espèce de débat là, qui fait rage. Et ça, c'est probablement ce que plus dommage dans toute cette histoire.
Moi, je pense, et puis Stéphane, je veux t'entendre là-dessus dans quelques instants, mais quand le cas Provorov est arrivé, que Gary Bettman disait, là, on regarde un joueur, regardez les 700 autres qui ont porté fièrement ce chandail-là, je pense que là, on ouvrait la porte à dire, OK, j'ai le droit de dire non. Et à partir de là, ça fait en sorte que là, c'est maintenant chaque individu à travers la Ligue nationale qui choisit d'appuyer ou non. Moi, là, il y a une chose que je comprends pas. C'est depuis quand que la Ligue nationale de hockey doit justement endosser de grandes causes de valeurs sociales quand le seul objectif, c'est de vendre des tickets puis de rendre populaire son sport? Tu sais, si tu ne penses pas vraiment à ce que tu fais, fais-le pas. Parce que clairement, on n'appuie pas les équipes qui voudraient voir ces joueurs mettre des chandails, puis on dit pas, regarde, les gars, vous aurez des suspensions. Nous, la Ligue, c'est fondamental comme valeur. Mais on a l'impression, Stéphane, que c'est juste un peu de bullshit. C'est de la poudre aux yeux.
C'est pour bien paraître.
Mais c'est ça, c'est pour bien paraître. À un moment donné, si tu le fais, tu le fais. Puis si tu le fais pas, tu le fais pas. Ben, mais branche-toi, là.
Exact. Comme tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui, on fait toutes des choses pour bien paraître, souvent sans y croire. Et puis, ça, c'est un gros problème. Mais moi, dans les cas précis qu'on parle aujourd'hui, des Stars, puis Reimer, puis tout ça, moi, je suis pas prêt à dire que c'était homophobie, là, comme Simon Lier dit, là, je pense pas que Mark Stahl, puis des Stars, c'est des souffrent d'homophobie, puis Reimer, c'est des questions de principe, puis ils l'ont dit. Et puis l'autre chose que j'aime, au moins, c'est qu'on a le droit de s'exprimer, puis il faut respecter ça. Les autres, ils sont pas bien que ça. Faut le respecter. Et puis c'est le même dans toutes les catégories, comme faut respecter la communauté LBGT, comme il faut respecter toutes les personnes sur la Terre. Donc, j'ai pas de problème, moi, qu'un Mark Stahl ou un Rick Stahl ou, qui s'exprime. Il faut respecter ça. Pas obligé d'être d'accord, mais il faut respecter ça.
Ben, si on n'est pas obligé d'être d'accord, on sera pas d'accord, mon ami Stéphane, parce que je me demande après ça, où est-ce qu'on continue, quelles autres exceptions on met. Si un joueur avait refusé de porter le chandail en hommage au mois de l'histoire des Noirs, il y aurait eu un tollé à juste titre, parce que c'est quelqu'un. Puis comment il s'en est sorti en disant, ah ben moi, je suis pas, tu sais, j'ai pas de problème avec les personnes racisées, mais je peux pas porter un chandail qui les encourage. Alors que je veux dire, on n'a pas à encourager ou pas encourager ça. Je veux dire, c'est des droits humains, c'est l'égalité, puis c'est la même chose. Je reviens à ce que je disais tantôt. Tu sais, c'est problématique. Puis effectivement, peut-être que c'est les équipes qui doivent changer leur approche de dire, ben si c'est pour être trop polarisant parmi les joueurs, on va faire d'autres choses. Mais clairement, si ça devient ça la nouvelle norme, que des joueurs le font, puis des joueurs le font pas en invoquant des principes, tu sais, quel principe? Je veux dire, c'est quoi? Puis c'est surtout le message que ça envoie.
C'est pas à toi à juger le principe. C'est pas à toi à juger. C'est le principe. Puis je respecte ça. Je suis pas d'accord. Mais je respecte ça, que c'est le principe.
OK, mais dans ce cas-là, la Ligue et l'association des joueurs, parce que la Ligue peut bien dire on va suspendre des joueurs, l'association va poser la question, puis ça va être une bonne question, sur quel enjeu? Est-ce que quand un joueur signe un contrat, il est obligé de porter un chandail qui est associé à la cause sociale d'une équipe qui n'est pas imposée par ailleurs par la Ligue aux équipes?
Mais tu es obligé d'endosser les valeurs de la Ligue nationale de hockey et la Ligue nationale de hockey. Et là, c'est là mon point.
Exact.
Là. Mon point, c'est que j'ai l'impression que la Ligue, pour bien paraître, épouse des causes qu'elle ne tient pas tant que ça à défendre parce qu'elle laisse ses joueurs pas défendre la cause que la Ligue paraît bien avec ça. Et moi, j'ai un problème avec ça, tu sais, de vouloir être plus blanc que blanc, puis d'être parfait, puis de vouloir vendre des valeurs. Écoute, c'est du hockey que tu vends, là. C'est du hockey que tu vends, et savez-vous quoi? J'ai l'impression que la Ligue n'y croit pas elle-même parce qu'elle a laissé de la place à plein de gens de débarquer de ce mouvement-là. Tu t'en penses, Simon-Olivier, non?
Ben, je suis d'accord, mais après ça, c'est parce que là, sur ce plan-là, on peut pas rentrer à portant dans le tube. Si la Ligue a commencé à faire des événements LGBT, elle se fait prendre. Puis effectivement, je pense aussi que la Ligue était peut-être pas préparée à ça. Puis je veux dire, je peux pas les blâmer là-dessus parce que je pense que le cas Provorov, ça a pris tout le monde par surprise. Mais après ça, comment ils gèrent ça, c'est à voir. Puis moi, je serais pas surpris du tout que les chandails de l'année prochaine, il y en ait plus dans la Ligue ou que certaines équipes ou que moins d'équipes décident de le faire parce qu'ils sont pas obligés par ailleurs. Moi, j'aime mieux voir une équipe ne pas faire ça, mais prendre d'autres initiatives que de dire on le fait puis on le fait plus ou qu'on le fait, mais tel joueur le fait pas. Parce que c'est pas vrai que l'argument, il tient pas celui de dire non, mais faut parler des 700 qui le font puis pas des 3, 4 ou 5 ou 10 qui le font pas. Ça se peut pas, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Forcément, on va en parler parce que c'est important. Ça illustre un phénomène. Ça illustre des changements. Quand tu sais, aux États-Unis, présentement, des lois anti-LGBT, anti-trans, beaucoup, il y en a qui en passent une par jour. Et aussi au Canada, on est moins exposé à ça pour l'instant, mais tu sais, ça veut pas dire que ça arrive pas non plus. Fait On va continuer de suivre, suivre ça. Je pense qu'on va en reparler encore.
Il y a des fortes chances, mais tu sais, je pense qu'à la base, tout est question de respect. Il faut respecter les individus qui sont là, puis je pense que la Ligue nationale, c'était son intention de base, malheureusement. Je pense qu'elle a un peu échappé là-dessus. Tu sais que maintenant, Cogeco, la presse, nous aurons une valeur sociale que nous allons supporter, c'est Mike Hoffman. Donc, tout le monde devrait porter un chandail de Mike Hoffman. Et toi, Stéphane White, tu seras le premier.
Je dois ma liberté de parole, j'y tiens, et puis non.
Tu vas m'abstenir. C'est ce qui conclut le balado Sortie de zone. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup, Simon-Olivier. Ça fut un plaisir encore une fois.
Merci à toi.
Guillaume Lefrançois, toujours en transport entre Montréal et entre Boston et Montréal. Merci d'avoir été avec nous, Guillaume.
Merci, J.R. Je précise, par exemple, j'ai pas fait le balado en transport, par contre.
Ben oui, c'est un gars.
Ce balado a été fait en toute sécurité.
Voilà.
Et voilà. Super ville de Waterbury.
Et aucun animal n'a été blessé dans les circonstances.
Et boy, surtout pas Guillaume.
Et Stéphane White, merci d'avoir été là, Stéphane.
OK, boy, à la semaine prochaine. Merci.
Merci. Au revoir. Notre prochain balado, mercredi prochain, après les duels contre les Sabres de Buffalo et les Flyers de Philadelphie.